France Inter.
To be or not to be, not to be.
Dans Matrix 4, Matrix Résurrection, le dernier opus de la franchise qui est malheureusement loin d'avoir fait l'unanimité, Lana Wachowski nous délivre pourtant un message ô combien d'actualité. Quels que soient les accents révolutionnaires d'une œuvre, elle finira toujours par être récupérée par la matrice, vidée de son sens initial et exploitée jusqu'à plus soif. Un petit peu comme ces images de Che Guevara, qu'on retrouve sur des t-shirts made in Bangladesh. Et c'est difficile de ne pas faire un parallèle avec la série sud-coréenne star de la plateforme Netflix Squid Game. Une série qui présente des hommes et des femmes dans une situation de précarité telle qu'ils sont prêts à marchander leur propre vie dans un jeu de la mort impitoyable. Et qui est devenue tour à tour, dans le monde réel, une idée de costume pour enfants portée à Halloween, un menu Burger King ou bien une émission de télé-réalité portée par les youtubeurs du moment. La matrice a encore corrigé un bug dans son système comme elle le fait si souvent. Dès lors, on est en droit de se demander si le cimetière des grandes luttes, des idées révolutionnaires ou progressistes, c'est pas tout simplement de terminer dans un bon film ou une bonne série Netflix. Don't Look Up, le film censé éveiller les consciences sur l'urgence climatique, a surtout fait une très bonne audience. Peut-être qu'à défaut de changer le monde, ces thématiques nous empêchent surtout de changer de chaîne.
France Inter, Blockbuster,
juste ici ça va.
Frédéric Siglist.
218번, 조상.
Joueur 218, nom Cho Sang-woo.
나이 46세.
Âge 46 ans. Ancien chef d'équipe chez Joy Investments. A siphonné l'argent de ses clients pour le réinvestir dans des placements hasardeux, actions et produits dérivés.
현재 손실. 6억 5천.
Pertes actuelles, 650 millions de won. Joueur 107, Kim Hyuk. 540 millions de dettes. Joueur 118, Oh Young-hook. Dette 1 milliard. Joueur 322, Jung Min-tae. 880 millions de dettes. Joueur 119, No Sang-hoon. Dette 1 milliard 39. Joueur 369, Park Joo-hoon. Dette 900 millions. Vous tous ici présents, vivez sur le fil du rasoir avec des dettes que vous ne pourrez jamais rembourser. À notre première rencontre, aucun de vous n'avait confiance en nous. Mais comme vous le savez, nous avons joué à un jeu et nous vous avons payé comme promis lorsque vous avez gagné. Vous nous avez tous fait confiance et vous vous êtes portés volontaires pour participer à ce jeu de votre plein gré. Je vais vous donner une dernière chance de choisir. Vous pouvez partir et revenir à votre misérable vie et vos montagnes de dettes avec des créanciers à vos trousses. Ou alors vous pouvez saisir l'opportunité que nous vous offrons ici.
En 2021, alors que Netflix s'était déjà fait une place certaine parmi les plateformes de séries avec des œuvres telles que House of Cards, Stranger Things ou La Casa del Papel, un programme venu de Corée du Sud a fait une entrée de malade dans le top 3 des programmes les plus regardés, Squid Game. Une série où des hommes et des femmes endettés décident de mettre leur vie en jeu dans des épreuves faussement enfantines, tout cela dans l'espoir de toucher le pactole et de rembourser ce qu'ils doivent. Critique féroce d'un capitalisme et mise en scène télévisuelle d'une lutte des classes, la série a pourtant plus souvent été exploitée par Netflix pour son côté jeu de télé-réalité que pour sa satire. Pour revenir sur cet étrange phénomène paradoxal, je suis en compagnie d'Ophélie Surcouf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, vous travaillez en Corée du Sud et vous êtes l'autrice de K-pop Culture paru en 2022 aux éditions Hors Collection et l'essai Pourquoi la Corée, la vague coréenne et nous paru en 2021 à l'Atelier des Cahiers. Avec nous également Gilles Verviche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie, expert en pop philosophie. Votre dernier ouvrage, Stranger Philo, comprendre la philo avec Stranger Things, est paru aux éditions Flammarion. Et vous avez écrit votre premier stand-up philo. Oui. Êtes-vous sûr d'avoir raison?
Tout à fait.
Soleil.
그 옛날에 어릴 때 하던 거 말이에요?
Comme le jeu auquel on jouait quand on était gamin?
그런 것 같은데요.
J'en ai bien l'impression, ouais.
1, 2, 3, soleil, c'est une blague? Ils sont pas sérieux, là.
On parie sur qui finit premier?
100만 원 par. 1 million de won.
Quoi? Ça marche?
Ah, si, bah. Crol. Je marche pas, je cours.
5 minutes, franchirons la ligne d'arrivée sans se faire attraper dans un temps imparti de 5 minutes.
324번 탈락.
병신 걸렸네.
진짜 세워 버렸다.
Un extrait du premier épisode de la série Squid Game 1, 2, 3 Soleil, réalisé par Wang Dong-hyuk, qui introduit l'un des personnages principaux de la série, Song Ji-hoon, interprété par Lee Jung-jae, et doublé en français par Constantin Pappas. Alors, d'ores et déjà, je présente mes excuses si jamais je ne prononce pas bien les noms coréens. Malheureusement, d'habitude, c'est plutôt les profs d'anglais qui me tombent dessus. Là, maintenant, ça va être les profs de coréen. Je fais de mon mieux. Ophélie Surcouf, est-ce que Netflix avait anticipé le phénomène incroyable qu'a été Squid Game ?
Pas du tout. Personne n'avait anticipé ce phénomène. A posteriori, ça paraît évident. Mais avant coup, personne n'avait anticipé que ce serait aussi énorme. D'ailleurs, les managers de Netflix ont dit ça dans des interviews, qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce que ça marche, qu'ils s'attendaient à un succès en Corée, mais pas du tout à une telle explosion à l'international de la série. Non.
Et comment on explique ça ? Alors peut-être que la série est arrivée sur les plateformes à un moment clé aussi de notre époque. Je crois qu'il y avait, on était déjà en confinement ou
C'était pendant le Covid en tout cas. Oui. C'était en 2021. Donc on était en post-confinement. Enfin, Netflix en tout cas était dans toutes les maisons. Mmh. C'était vraiment le moment où tout le monde regardait ça. C'est arrivé après Tiger King et d'autres séries d'autres projets qui ont bien marché. Mais clairement, le Covid fait partie des éléments qui ont favorisé l'explosion de Squid Game. Cela dit, il y a tellement d'éléments un petit peu qui se sont alignés presque un peu par miracle, on dirait, que en fait le succès était presque impossible à éviter en fait. Mais le principal, je trouve, et qui d'ailleurs est très peu mentionné, c'est que c'est le réalisateur en fait, Wang Dong-hyuk, qui est un expert de ces projets improbables qui ont un succès dingue en fait avec le bouche à oreille. Et ça, c'est vraiment ce qui marque Squid Game. Ça est sorti, il y avait juste un trailer en anglais vague. C'est sorti en Corée, donc ça a été présenté tout de suite sur les profils des gens qui regardaient déjà des séries coréennes. Mais c'est tout, quoi. Il n'y avait pas d'autres publicités. Et en une semaine, la série, elle est devenue virale. Une semaine.
Et c'est d'ailleurs quelque chose qui me fascine, même dans la manière dont les fans de séries peuvent parler de leur programme préféré. On va citer en grande série les Sopranos, The Wire, etc. Des séries qui ont leurs lettres de noblesse. Et je trouve, là c'est peut-être, là je m'engage hein, personnellement, mais je trouve qu'on est d'une injustice sur la qualité de Squid Game, qui est à mon sens une série bien plus intelligente et intéressante que la manière dont on a eu d'en parler. Est-ce que vous avez ce ressenti similaire sur la dissonance qui peut exister entre le succès qu'elle a eu et la manière dont on en parle? L'impression que Squid Game, c'est c'est le cousin un peu gênant qui arrive aux fêtes de fin d'année.
Oui, je pense que de toute façon, il y a un dédain certain pour les séries coréennes, qui quand même, rappelons-le, dans le monde entier sur Netflix, sont les deuxièmes contenus les plus consommés après les séries américaines en fait. C'est pas et de beaucoup. Hein. Oui. C'est pas du tout anodin. Donc il y a vraiment une sorte de dédain, je pense, notamment. Mais c'est un dédain qui a toujours existé d'un point de vue un peu élitiste des cultures populaires. Les séries coréennes, elles prétendent pas justement être défendre des grands sujets. Elles parlent de l'intime, elle parle de la famille, elle parle des problèmes personnels. D'ailleurs, Squid Game, ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles elle a aussi bien marché. Elle parle de gens qui veulent résoudre leurs problèmes personnels, leurs dettes personnelles, et c'est tout, quoi. Il y a pas, on n'essaie pas de sauver le monde dans cette série. Il y a pas une grande organisation qui maîtrise les grands pouvoirs du monde entier. Non, c'est vraiment des gens qui sont mis dans un espace.
Si, le capitalisme.
Voilà. Alors, les gens sont
victimes. Il y a quand même les gros méchants là qui sont dans leur américain.
Oui, les riches.
D'ailleurs, c'est le petit fou point faible de la série, on se demande comment ces gens qui parlent anglais jouent aussi mal. Enfin, c'est marrant parce que ils ont l'air de mal parler anglais, de pas avoir eu de direction d'acteur. Alors c'est, on savait pas ce qu'ils font là. Alors c'est eux les maîtres du monde, hein. C'est le complot international qui sont en train de jouer avec les pauvres, voilà. Mais
et justement, Gilles Verriche, ouais. Le point de vue du philosophe quand vous avez découvert Squid Game, à quel moment vous êtes dit, oh tiens, c'est un sujet d'étude intéressant?
Moi, dès le début, en fait. Dès le début, alors j'ai trouvé ça très très violent. Alors pour tout vous dire, comment je l'ai vécu d'abord, un point de vue intime, j'ai été très gêné d'abord par le premier épisode, parce que on parlait de confinement, mais ce qu'on a vécu en France, c'est le Bataclan, et le 1, 2, 3 soleil, là, moi ça m'a un peu fait résonner quelque chose. Mais après, en fait, j'ai trouvé que paradoxalement, moi qui suis prof de philo, donc... paradoxalement, je trouve ça très moral et très éthique comme série, puisque chaque épisode, quasiment, on en reparlera peut-être, est un ce qu'on appelle les fameux dilemmes moraux dont on pose le problème, qu'on résout d'une certaine manière, mais finalement sans trop dire aux téléspectateurs quelle était la bonne ou la mauvaise solution. Donc ça m'a beaucoup plu, le côté éthique. Je me suis tout de suite dit, en tout cas en tant que prof de philo, ça va me faire de la matière. Alors heureusement, sur YouTube traînent des versions no blood de chaque jeu, donc je peux le montrer aux élèves. Après, bon, quand on diffuse des choses aux élèves, on se rend compte qu'ils en ont vu d'autres.
Ils l'ont déjà vu.
Et après, ce qui m'a plu beaucoup, c'est justement le côté... alors moi, mes séries préférées, effectivement, c'est Soprano, Breaking Bad, Succession, enfin les trucs bien...
Oui, des séries qui sont pas réputées pour leur non-violence également.
Voilà. Mais on a La Tradition, Le Parrain, Coppola, Scorsese, etc. Effectivement, un approfondissement des personnages. Il y a un jeu, moi j'y connais rien du tout à la culture coréenne, ce qui m'a plu, il y a le côté un peu exotique. Je trouve que le jeu est pas le même, c'est toujours un peu... Ça a l'air, en tout cas de mon point de vue, un peu exagéré. Comme ça, quand il joue les émotions, c'est un peu très 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 expressif, mais c'est cette étrange. Moi, alors justement, vous l'avez rappelé, j'ai fait un petit bouquin sur Stranger Things, mais il y a de l'étrangeté, je trouve, tout de suite dans cette ambiance, dans cette série coréenne, cette petite fille. Alors la vallée de l'étrange, c'est déjà, je sais pas si vous savez, c'est quand on mélange de l'humain avec du non-humain, et voilà, un robot qui ressemble pas du tout à un humain, prenons R2-D2, bon, ça amuse tout le monde, voilà. Et plus une intelligence ou de l'artificiel ressemble à l'humain, plus c'est gênant. Voilà, ça devient de plus en plus étrange. L'étrange, c'est quand le familier devient étranger. Et cette petite fille géante, qui est horrible, on est vraiment en plein milieu.
Oui, on parle de l'étrange. Dans le 1, 2, 3 soleil, cette statue, enfin, cette poupée géante.
Voilà, et de manière générale, l'enfance, qui est normalement, effectivement, c'est ça qui est vraiment très dérangeant dans la série, c'est que l'enfance, qui est normalement le monde de l'innocence, de la gentillesse, de machin, ah, c'est les jeux qu'on jouait quand on était petit, qui deviennent mortels. Ça, c'est très gênant, parce qu'après, le Battle Royale, comme on appelle depuis l'œuvre japonaise, je sais plus le nom, mais bon, ça date de...
Oui, c'est Battle Royale.
Battle Royale, voilà. On a déjà vu ça dans...
L'adaptation du manga du
même nom. On a déjà vu ça dans Le Prix du Danger. Moi, j'aime beaucoup Running Man, Le Prix du Danger. Hunger Game, voilà. Mais c'est une autre version. Fait, ouais. Voilà. Oui. C'est l'appel à l'enfance, là, qui est très gênant. Mais moi, pour tout dire, ça m'a vite plu. Voilà. J'ai trouvé ça très original, justement.
Et tout à l'heure, vous avez parlé, Ophélie Surcouf, de Wong Dong-hyuk. C'est comme ça qu'on le prononce?
Tout à fait, Wong Dong-hyuk.
Wow. qui est l'homme derrière Squid Game. Et quel était son CV cinématographique avant cette série?
Alors bah, justement, il a fait 4 films avant de faire cette série. Il a fait un film, son premier, qui n'a pas eu beaucoup de succès. Ensuite, il a écrit... il avait fait un projet qui est tombé à l'eau, et ensuite il a écrit le scénario de Squid Game, et les gens trouvaient ça dérangeant et un peu absurde, et ils ont pas trop aimé, donc ils ont dit non, on veut pas sortir ça. Et ensuite, il a fait un projet où personnellement je trouve ça assez ironique, qui s'appelle The Silenced, et qui est horrible. Horrible. En fait, vraiment, le regarder, je vous dis ça de manière hyper transparente, moi j'ai fini le film en boule, à pleurer, j'ai dû zapper des scènes, je pouvais pas regarder. En fait, ça raconte l'histoire vraie d'une histoire atroce où en fait des enfants se faisaient abuser
une sorte de Betarame, mais avec des enfants en situation de handicap
sourds, dans une école qui se faisaient abuser par leur professeur, et en fait ça a été emmené devant le tribunal, et globalement il y a eu aucune aucune condamnation, quoi.
Oui, et d'ailleurs, il a même dit que ce qu'il avait mis dans le film, qui était pourtant déjà atroce, n'était même pas conforme à ce qui s'était passé dans la réalité, mais qu'il ne pouvait pas mettre ça dans un film.
Pire que ça, il a dit que ce qu'il avait mis dans le film n'était pas conforme au livre qui a été écrit sur le sujet, qui lui-même n'avait pas été complètement réel sur la... Enfin, vraiment, c'est hyper... C'est vraiment filmé d'une façon... très réaliste, en fait. Et en même temps, c'est pas du tout dans le voyeurisme et dans la violence exagérée. C'est tellement violent, il n'y a pas besoin d'exagérer, quoi. Donc, c'était vraiment horrible à regarder. Mais en fait, ce qui s'est passé quand le film est sorti, c'est que les gens étaient hyper choqués, évidemment. Et je vous disais tout à l'heure, le bouche à oreille, en 3 semaines, le film est devenu... est resté premier des... Enfin, les gens allaient en salle, quoi.
Du box-office.
C'était le bout du box-office, voilà, tout à fait. Était premier du box-office. Et en fait, l'effet était tellement incroyable sur les gens. C'est-à-dire que vraiment, les gens sortaient, ils étaient en colère. Enfin, on va spoiler, de toute façon, c'est pas très important, ça fait pas partie des premiers films. Quand le film se termine, justement, vous savez, à la fin, il y a les trucs tout le temps. Ah, mais après, ils ont fait ça. Ils ont vécu jusqu'à telle année, machin et tout. Là, c'est bon. Bah, du coup, cette personne-là est de nouveau en liberté. L'école est toujours ouverte. Enfin, tout ce genre de trucs. Et vraiment, c'est hyper révoltant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont fait une pétition au gouvernement. Et 3 mois après, il y avait une loi qui s'appelait la loi Dogani, qui a supprimé, qui a réouvert l'enquête, qui a permis la fermeture de l'école. Et en fait, c'est un film qui a changé la loi, en fait. Donc moi, c'est pour ça, quand on parlait de Squid Game et qu'on voyait des articles sur Squid Game qui parlaient de ce réalisateur dont Netflix avait sorti le scénario, oui, qu'il avait écrit en 2009, il y a tellement longtemps, quand il était pauvre et en difficulté financière, on a l'impression qu'il s'est assis sur sa chaise comme ça et il a attendu très triste que Netflix vienne le sauver.
Non, il avait déjà une carrière phénoménale.
Non, mais enfin voilà, c'est que son premier film, hein, parce que attention, il y en a d'autres. Hein. Le deuxième, c'est une comédie. Déjà, on passe de Dogani à une comédie. Donc, la comédie s'appelle Miss Granny. Ça raconte l'histoire d'une femme de 74 ans qui retrouve son corps de femme de 20 ans et qui décide de devenir chanteuse comme elle en rêvait. Et donc, ça parle de l'âgisme, ça parle de plein de sujets de société. Pareil. Donc, l'actrice, pas vraiment populaire, pas les standards de beauté classiques en Corée. Un sujet intéressant, mais enfin voilà, on ne s'attend pas à ce que ça soit aussi énorme. Le film devient 3e au box-office extrêmement vite et au final dépasse même La Reine des Neiges dans sa 3e semaine. C'est pas comme si La Reine des Neiges n'était pas populaire en Corée. Oui. Hein, voilà. Donc ça, c'est son 2e film. Il a été réadapté dans toute l'Asie. Il y a au moins 10 réadaptations de ce film. C'est énorme. Et ensuite, il a fait un 3e film qui est moins connu, mais qui reste quand même une sorte de projet un peu absurde, dans le sens où c'est adapté d'un livre et ça raconte un des grands échecs de l'histoire coréenne, à un moment donné où ils ont essayé de prendre leur indépendance et ils ont finalement dû la re-rendre pour pas être détruit par les invasions mongoles. Et c'est 2 heures de film dans la neige avec des gens qui discutent et qui s'achèvent sur un échec. et pareil, énorme, enfin gros succès et surtout très très apprécié par la critique pour celui-là. Et voilà, c'est ce qu'il a fait avant Squid Game. Et c'est vraiment un réalisateur extrêmement unique. Et c'est pour ça que Squid Game n'a pas été reproduit depuis. Hein.
Oui.
Personne n'a ce talent du bouche à oreille de créer la conversation comme Hong Kong-yok peut le faire.
Gilbert Rich.
Oui, 2 choses. Alors d'abord, merci d'avoir des spécialistes de culture qui connaissent bien une autre culture. Et parce que vous parlez tout à l'heure de mépris, je pense que nous, on est très ethnocentré, culture centrée. Effectivement, on fait partie de cette culture occidentale et on loue que tout ce qui est américain, français, éventuellement européen. Et donc, on se rend compte que ce réalisateur que nous on connaissait pas, en fait c'est déjà dans l'Asie, enfin je veux dire,
oui,
et puis l'Asie,
mais c'est exactement la
c'est
même chose
2 milliards
avec
de personnes, enfin voilà, on a l'impression d'être seul au monde et pas,
oui.
Et voilà, et deuxième chose sur les choses très intéressantes que j'apprends, moi j'apprends une chose par seconde dès que vous parlez, on se demande par rapport à ce premier film sur les abus sexuels, etc., si justement, ça me fait penser moi à ce qu'avait fait Lucas, c'était au départ on a un sujet grave, il veut parler des violences de l'enfance, et finalement Squid Game, est-ce que c'est pas la version pop culture un peu plus édulcorée, mais où le message passe,
est-ce
puisque
que...
c'est un peu, on retrouve beaucoup de violence, par rapport à l'enfance, etc. Et ça résonne un peu. Hein, pas pour parler de choses que je connais moi, parce que j'y connais rien la culture coréenne. Mais c'était un peu la même chose avec Lucas qui devait faire tout au départ Apocalypse Now avec caméra au point. Et puis quand il a voulu le vendre au studio dans les années 60, au début des années 70, personne n'en voulait parce que la guerre du Vietnam n'était pas terminée. Et donc finalement, il a raconté dans Star Wars, dans un space opéra très pop culture, ce qu'il voulait dire. Et donc finalement, le message finit quand même un peu par passer d'une autre manière.
Mais on a un peu les mêmes thèmes. Même si Squid Game reste éminemment âpre et violent.
Et clair, je pense, dans son message aussi. Hein. C'est pas très détourné finalement.
Voilà. Mais on a quand même cette enfance, violence, et je pense que ça parle quand même. Parce qu'on parlait, je parlais de malaise tout à l'heure, etc. Ça passe quand même.
Même on parlait du robot. Nous, du coup, en France, on ne sait pas ce que c'est, ce robot, mais ce robot, en fait, c'est la version gigantesque animatronique d'un dessin, en fait, qu'il y avait dans les petits, dans les livres scolaires pour les enfants en Corée, en fait. Donc, c'est un personnage qui est familier. Et donc, ça rajoute à cette violence de...
Oui, parce que tous les jeux violents présentés dans Squid Game ont un rapport avec l'histoire de la Corée.
Tout à fait. Oui. C'est tous des jeux... des jeux coréens, en fait. Y en a certains qui ont leur version un peu à l'étranger. Hein. C'est comme pour les mythes, hein. les jeux...
La corde,
tout à fait, le jeu de la corde. Le jeu de la corde, c'est un jeu qui jouait beaucoup dans les festivals coréens. Enfin, tous les jeux sont effectivement... sont effectivement coréens.
Et d'ailleurs, le fait de remettre tous les participants dans des tenues uniformes, où en fait leur individualité se dissout. Vous n'êtes qu'un numéro, vous avez ce jogging vert, les geôliers masqués, eux, sont en rose, et vous allez participer au même jeu que vous deviez pratiquer quand vous étiez enfant. Il y a aussi en filigrane, moi c'est comme ça que je l'ai reçu, mais cette image que on s'entraîne sur vous à la crèche, à la petite école, mais le but du jeu, c'est de vous envoyer dans un jeu de massacre à l'âge adulte, mais grosso modo, voilà, on ne forme pas des citoyens, on forme des futures victimes d'un système.
En Corée, par rapport à la culture coréenne, c'est vrai que c'est un gros sujet, parce que l'école, l'enfance en Corée, c'est compliqué. C'est-à-dire que on travaille énormément. Hein. Les enfants rentrent à la maison vers 10h du soir. et ça, c'est parce que des lois ont été mises en place relativement récemment.
Pour pas que ça soit 11h ou minuit.
Mais parce qu'avant, c'était 11h ou minuit, tout à fait. Donc, il y a une pression énorme, en fait, où dans la manière dont on dit les choses aux enfants, toute sa vie se joue pour l'équivalent un peu du bac, mais on est sur un équivalent qui va jouer une vie entière, en fait, hein, pas du tout comme en France où pour aller à l'université, en fait, parce que le résultat du Sunneng, donc c'est le nom de cet examen, permet d'aller à l'université, et en Corée, quasiment tout le monde va à l'université, en fait. Ça définit énormément le statut qu'on va avoir dans la vie ensuite. Et parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose de très culturel. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de traumas dus à la jeunesse.
Et d'où ça vient, ça? Parce que on a aussi fait une émission sur Stray Kids, le groupe de K-pop, où on voit l'entraînement des trainees, ces stagiaires, qui ont 7 ans de formation avant de pouvoir composer un groupe, qui explosent les heures, qui sont tout le temps sur scène, et tout en faisant des études. Cette envie d'excellence, cette envie de performance qu'on retrouve même dans l'e-sport.
C'est la même structure.
Oui, d'où ça vient en Corée du Sud? Est-ce que c'est justement en réaction, en opposition avec la Corée du Nord? Ou qu'est-ce qui, dans l'histoire de ce pays, explique ça?
C'est pas en opposition à la Corée du Nord, parce que c'est quelque chose qui date d'il y a beaucoup plus longtemps. Historiquement, la Corée, d'ailleurs, a une des plus anciennes universités au monde, qui s'appelle Sungkyunkwan. C'est dans le confucianisme, qui est une philosophie qui vient de Chine, mais qui a été adaptée en Corée en néo-confucianisme, et qui prend tous les préceptes confucianistes de manière très à la lettre, qui est beaucoup plus intense que la version chinoise. Et en fait, cette philosophie recommande d'être tout le temps dans l'érudisme, d'étudier en permanence. On étudiait les textes, on ressortait les textes. C'était vraiment quelque chose de très fort, et qui est resté avec les années. De façon générale, en Asie, y a une passion pour l'école, l'excellence, le fait d'aller à l'université. Mais c'est vrai qu'en Corée, comme avec tout ce que fait la Corée, c'est-à-dire qu'ils prennent tout ce qui existe, ils font rien de particulièrement original, mais ils le font toujours fois mille. Et c'est ça vraiment la particularité de la Corée, c'est toujours tout faire aux extrêmes. Et il y a vraiment cet intérêt pour l'école il vient de là. Et du coup, ça crée des traumatismes chez les enfants parce qu'ils étudient tellement et ils rentrent chez eux très peu. Ils ont peu de place aussi pour être des enfants. Et chez les adultes, ça se ressent en fait. On sent qu'il y a quelque chose qui, quand ils ont grandi, qui est difficile et toujours qui emmène avec eux toute leur vie en fait. Et je pense que Wang Dong-hyuk, il y a vraiment ce retour-là parce que surtout à l'époque où il a grandi, qui est quand même une époque traversée par les crises économiques et le fait de devoir tout donner pour son pays, pour le développement économique, hein, parce que oublions pas qu'il y a 70 ans, la Corée était un des pays les plus pauvres au monde. Forcément, ça laisse des traces.
Nous sommes ensemble pour parler de Squid Game, mais on va faire une petite pause musicale avec une chanson que l'on entend dans Squid Game, et une très belle chanson, mais qui passe sur des moments très douloureux. Fly Me to the Moon de Frank Sinatra.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter.
Avec des camarades, on a fait une manif. Dans l'entreprise où je travaillais. On avait monté des barricades comme on a fait ici.
Et c'était quoi l'entreprise où tu travaillais?
Une entreprise automobile.
Ah. Pourquoi t'as manifesté?
Ils avaient des difficultés financières, ils nous ont virés. J'avais travaillé pour eux pendant plus de 10 ans.
Ah ouais. Ça a dû être difficile.
Mon enfant allait venir au monde. Et j'avais un million de choses à payer. Ils nous ont demandé de partir sur le champ et ils nous ont pas donné le choix. Ils ont coulé l'entreprise et ils nous ont tenus pour responsables. Ça m'a rendu fou. Comme on le fait maintenant avec mes camarades. On s'est relié pour monter la carte nue, puisqu'on avait décidé d'occuper l'usine. Chaque nuit, on tremblait de peur.
Parce
que la police pouvait débarquer.
Sarami, Chubotiam.
Il me semble bien que quelqu'un était mort, non?
Ah oui. Bien oui.
Oh mon Dieu. Je suis désolé. J'aurais pas dû faire remonter tout ça.
Oh. Un extrait de l'épisode 5 de la série Squid Game, Un monde juste. Et alors, dans cet extrait, et dans la série plus globalement, on voit que la lutte des classes est directement mise en scène. C'est-à-dire que en permanence, y a évidemment ces puissants, il y a le monde de l'entreprise. C'est un thème qu'on retrouve aussi dans le cinéma coréen de manière plus large. Hein. On pense évidemment à l'Oscar avec Parasite, qui parle de la même chose. Et en même temps, dans Snowpiercer, le transpersonnel également. Cette idée de lutte des classes dans Squid Game, elle est vraiment mais essentielle en fait. Ça ne parle que de ça.
Oui, c'est tout à fait le sujet. Après, c'est vraiment un sujet en Corée de manière générale dans toutes les séries, qui revient un peu tout le temps en fond des séries. Ouais. C'est clair.
Gilles,
oui, philosophiquement. Ouais, effectivement, on voit la lutte des classes. Alors, d'ailleurs, c'est un peu caricatural, encore une fois, les puissants, là, avec leurs masques, qui regardent les pauvres en train de s'entretuer.
Oh, ouais, est-ce si caricatural? C'est vrai qu'il y a une sorte de sophisme français de dire, non, mais là, ils jouent les méchants, etc. Mais quand on voit, par exemple, des scandales récents, comme Nestlé, qui demande au gouvernement de changer des rapports attestant de la dangerosité de leur eau.
Ah oui, oui.
Réécrit avec ça. Est-ce qu'on est si loin du Squid Game?
Sauf que ça encore. Oui, ils ne les regardent pas en train de mourir, mais ils fabriquent les conditions pour. Effectivement, il y a une bonne question philosophiquement sur tout ça, c'est la part de liberté. Parce que dans l'extrait que vous aviez passé tout à l'heure, on entendait vous êtes là de votre plein gré. Oui. C'est vrai que la première fois qu'ils se sont embarqués dans le jeu, ils sont au courant de rien, donc ils y vont sans savoir, et on pourrait dire qu'ils sont piégés. Voilà. Et donc après le 1, 2, 3 soleil, on leur dit bon, bah écoutez, soyons sport. Vous avez maintenant à quoi vous attendre, c'est un jeu à mort, donc si vous voulez repartir, comme on sait, je voudrais pas tout spoiler, mais bon,
c'est... Non, mais c'est hyper important.
Ils repartent, et on se dit, philosophiquement, éthiquement, moralement, maintenant ils savent tous ce qu'ils font là, et ils viennent pour gagner de l'argent à mort. Et même le héros, on pourrait en parler longtemps, parce que il reproche toujours un peu à ses meilleurs amis d'être des salauds, alors que lui, il espère quand même à la fin s'en sortir, hein, il vient comme tout le monde. Et donc, la question que je me pose et que je pose à mes élèves, c'est est-ce qu'ils sont vraiment libres? Est-ce que c'est vraiment volontaire?
Oui.
Et il y a Leibniz, philosophe allemand du XVIIe siècle, qui dit il y a plusieurs formes de liberté. Il y a la liberté de droit et la liberté de fait. La liberté de droit, c'est qu'on a tous les mêmes droits, libre circulation, etc. Donc quand on leur dit, vous êtes libre de revenir, de repartir dans le jeu, allez-y. Et Leibniz précise, selon la liberté de droit, un riche est aussi libre qu'un pauvre. Bon, sauf que si je vous donne le même droit à la libre circulation, celui qui n'a pas les moyens
de circuler,
ça lui fait une belle jambe, alors que celui qui a les moyens, voilà, ça veut dire que la vraie liberté, nous dit-il, c'est une liberté de fait. Voilà. Et dans Squid Game, c'est exactement ça. Quand on les libère et que on se rend compte très vite, ça me rappelle la scène dans Matrix quand elle lui ouvre la portière en disant au bout du chemin, il y a rien du tout, et en fait quand ils ressortent, ils sont libres de rien. Voilà, et la question c'est de savoir à cause de ce système capitaliste effectivement, dans quelle mesure en réalité, ils sont vraiment libres, est-ce qu'ils ont vraiment le choix par rapport à la condition de vie? La liberté, c'est pas seulement avoir un droit, c'est aussi les moyens de vivre, ils en ont aucun. On a rappelé tout à l'heure à quel point ils étaient tous endettés. À côté, Jérôme Kerviel, il doit pas beaucoup d'argent. Donc ils sont. Je pense que ils sont finalement contraints par. Alors ils sont libres par rapport aux règles du jeu et aux puissants, mais ces puissants, ce sont ceux qui contrôlent par ailleurs le système capitaliste. Et donc par rapport à ce système économique, je pense qu'effectivement ils n'ont pas beaucoup le choix et c'est pas tellement librement qu'ils y vont. Enfin, ils ont le choix de mourir dans un caniveau ou de revenir jouer. Enfin voilà, ils n'ont pas grand chose à perdre en fait. Ils n'ont pas grand chose à perdre à venir parce que leur vie à l'extérieur, c'est un peu comme si tu étais mort. Enfin voilà, donc finalement on peut pas leur reprocher grand chose. Ils sont beaucoup moins libres qu'ils le croient justement. À cause de cette lune des classes.
미친 거 아니야?
Vous êtes complètement malade ou quoi? C'est de la folie furieuse! Vous voulez vraiment continuer ce jeu de massacre?
En admettant qu'on s'arrête!
Je
vois pas ce que ça changera.
On vit comme des animaux dehors. C'est déjà un jeu de massacre.
Bien parlé.
Je
suis d'accord avec elle. Si on arrête maintenant, on n'aura rien. Tout ira aux familles des perdants. Les 100 millions de won. Vous trouvez que c'est juste?
Non, je vous en prie.
Par pitié, ne faites pas ça. Il faut qu'on rentre chez nous en vie. Sauf que j'ai pas de chez moi. Et si j'ai une petite chance, alors que dehors, moi j'ai nulle part où aller. Mais dis qu'on reste et qu'on va jusqu'au bout.
Abruti, si t'as envie de mourir, je t'en prie, vas-y. Mais fais-le tout seul. Et nous emmène pas dans tes conneries.
Qu'est-ce que vous faites? Nous n'autoriserons aucun acte qui soit de nature à entraver le processus démocratique. J'invite donc le reste des joueurs à poursuivre le vote.
Un extrait de l'épisode 2 de la série Squid Game intitulé Enfer. On sent justement dans cet extrait, qui le dit très clairement, que la démocratie est finalement la chaîne pratique pour verrouiller ce système. C'est-à-dire qu'il y a une apparente démocratie. Vous pouvez voter pour partir.
Oui, alors c'est vraiment un moment important, parce que, effectivement, comme disait Gilles, c'est vraiment le moment clé, parce qu'en fait, tout à coup, on est avec les personnages, plus. Parce qu'à mission là, par choix, c'est plus des victimes. Ça change vraiment beaucoup la dynamique.
Sinon, ça serait trop facile. Voilà, que ce soit
Et puis, ce serait très dur à regarder, en fait. Ce serait impossible à regarder. Voilà. D'ailleurs, l'épisode 1, à ce niveau-là, est vraiment intéressant parce que c'est vraiment le summum de la violence graphique. Si on peut supporter l'épisode 1, on peut supporter toute la série. C'est vraiment une sorte d'expérience visuelle. Voilà. Mais effectivement, au niveau de la démocratie... Mais en même temps, c'est un peu une fausse démocratie. Parce que c'est pareil, leurs règles qui sont censées être là pour garantir l'égalité de tous... En réalité, ils les appliquent un peu quand ils veulent. Quand il y a des gens qui commencent à se battre et à essayer de se tuer alors que c'est censé pas être permis, étonnamment, on les laisse faire. Alors qu'ils sont tous sur surveillance et que c'est clair qu'ils peuvent tout voir. Donc c'est vraiment quelque chose comme ça qui change en permanence et c'est une fausse démocratie.
Oui, et puis en plus, ce côté... même s'ils perdent la vie... Leur corps, on voit qu'il y a un trafic d'organes qui est organisé, c'est-à-dire que même leur mort continue d'être capitalisée pour générer du profit.
Oui, ça d'ailleurs c'est intéressant parce que techniquement c'est interdit par les jeux et c'est puni par les jeux. Et donc il y a toujours encore cette fois ce renvoi à « Ah mais les jeux essaient d'être justes ». On essaie de nous faire croire ça de A à Z, en fait. Du coup, on va éviter de spoiler nécessairement la série, encore que ça fait tellement longtemps à ce stade qu'on va dire il y a prescription. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est tout le temps un sujet qui revient dans la série, qui est que on essaie de dire que les jeux sont l'espace le plus juste possible. Et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, cette histoire de... Comme c'est pas des victimes, le jeu n'a pas de responsabilité, en fait. Le fait qu'ils reviennent ne leur donne pas de responsabilité.
Non, mais en fait, c'est très intéressant parce que ça montre quand même le décalage justement entre le juste et le droit, ou le droit et la morale et la politique ou la liberté. Parce que quand ils disent qu'il y a des règles et quand ils disent vous pouvez sortir quand vous voulez, il suffit que la majorité décide. La première fois qu'on voit la série, on se dit ils sont en train de mentir, en fait, voilà. Et ce qui est assez frappant, moi je trouve, c'est que toutes les règles, ils ont l'air hyper à cheval sur les règles. C'est-à-dire que ils mentent, enfin l'organisation ne ment pas quand elle donne les règles, et on est a priori dans un état de droit, quoi. Et alors effectivement, la question, c'est de savoir ce droit, qu'est-ce qui sert comme cause, parce que ils sont très fair play. Enfin, je veux dire les organisateurs. Bon après, il y a quelques taupes, etc. Mais voilà, quand ils disent, ils respectent les règles. Et on a l'impression que les tricheries, on supporte pas quand même. Et d'ailleurs, on poursuit ceux qui... Voilà. Mais cette règle, pour une cause qui est complètement absurde, quoi, de poursuivre les gens à s'entretuer. Effectivement, quand on disait que c'est une fausse démocratie, je pense que derrière, la question, c'est de savoir, et dans la réalité, qu'est-ce qui fait qu'une démocratie est réelle ou pas? Voilà. Et on se retrouve un peu, comme je disais tout à l'heure, si le vrai pouvoir, il est économique, alors ça veut dire de la démocratie, des élections. Alors, vous choisissez, voilà. Mais en fait, comme on se rend compte, ils ont pas vraiment le choix, parce que le vrai pouvoir, la vraie domination, ça fait un peu marxiste, hein, mais c'est un peu ça, hein. La vraie domination, le vrai pouvoir, il est économique. Donc vous pouvez décider ce que vous voulez. De toute façon, vous avez pas vraiment le choix, puisque c'est nous qui avons les règles, quoi. Voilà. Mais, ouais.
Et, ce qui frappe aussi à la première vision quand on regarde Squid Game, c'est évidemment ce côté pop acidulé, on est dans des décors fluo, et il y a aussi ces motifs du rond, du triangle, du carré qu'on retrouve sur les masques et qui, moi, en tant que joueur, voilà. m'a tout de suite fait penser à la manette de PlayStation. Et je trouve qu'il y a, quelque chose aussi dans l'ordre de le côté presque anecdotique de la mort, quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'univers du jeu vidéo. Et or, la Corée du Sud est une grosse patrie du jeu vidéo aussi.
Oui, oui. D'ailleurs, même si on parlait tout à l'heure des Battle Royale, un des grands Battle Royale qui existe aujourd'hui, c'est Fortnite, le jeu vidéo. Et ce jeu Fortnite a été inspiré par un jeu coréen qui s'appelle... alors, je risque de l'écorcher, mais si je ne me trompe pas, c'est Player Unknown Battlegrounds, PUBG.
Bug,
non, ouais, oui. Moi j'appelle PUBG parce que je suis... Chacun son... Oui, voilà, oui, moi je suis pas une joueuse. ça par exemple, ça vient d'un studio coréen.
Oui, donc en fait, il y a ce parallèle, il est là, la compétition, que ça soit virtuelle ou sociale, elle est aussi présente là-dessus.
Oui, il y a clairement une... comment dire, c'est vraiment le jeu du capitalisme, en fait, c'est ça. Et enfin, ça me fait penser à ça parce que c'est assez absurde, mais par exemple, même conduire en Corée, presque c'est un jeu. C'est-à-dire que on respecte pas tellement les règles, sauf quand le GPS dit ah là il va y avoir une interdiction, et là tout à coup tout le monde ralentit. Et c'est hyper bizarre du coup de jeu, parce qu'on est constamment dans ce truc où il faut pas respecter les règles, mais il faut respecter les règles. Et en fait, ça se retrouve à plein d'étages de la société coréenne où c'est une sorte de chaos un peu organisé. et je pense que c'est quelque chose qui se retrouve dans l'esthétique de Squid Game, qui est pas forcément quelque chose qui est raconté dans le scénario de manière extrêmement précise, parce que c'est quelque chose de culturel, donc c'est dur à identifier, à raconter, mais qui ressort énormément dans la série et du coup dans l'analyse qu'on peut en avoir après coup.
Et l'autre point que j'aimerais aborder avec vous, c'est que tout à l'heure, Gilles a cité notamment Hunger Games, Running Man, Battle Royale, mais à l'exception de Running Man, le point commun de Hunger Games et de Battle Royale, c'est que ce sont des adolescents qui sont voyés. Et donc forcément, l'appréciation faite par le spectateur, c'est des innocents, c'est encore des enfants, ils méritent pas d'aller là-bas. Mais dans Squid Game, la grande nouveauté, c'est que ce sont des hommes et des femmes d'âge mûr. Il y a même des personnes âgées qui se retrouvent à participer à ce jeu-là. Qu'est-ce que ça change philosophiquement et même en termes dramaturgiques de mettre des adultes ? Parce que je trouve que ça répond aussi à quelque chose qu'on entend très régulièrement quand on écoute l'actualité, c'est que quand il y a des victimes quelque part, on dit « il y a eu 72 morts, dont 12 enfants ». Comme si les 12 enfants, c'était plus grave que le reste, comme si adulte, on avait une sorte de licence à mourir plus facile que quand on est enfant. Alors que non, finalement.
On en est toujours considéré plus responsable, de toute façon, quand on est adulte que quand on est enfant. Il y a les problèmes de minorité ou de majorité pénale, sexuelle, etc., etc., effectivement. Et quand c'est... on pourrait poser presque la même question, c'est-à-dire quand on a affaire à des adolescents, par exemple dans Hunger Games, voire des enfants, la question que ça pose derrière, ce serait est-ce que naturellement ou pas, c'est les questions aussi de séries post-apocalyptiques, donc avec tous les morts-vivants là, qui sont très très à la mode, c'est de savoir vous mettez des adolescents qui a priori sont pas encore complètement construits moralement et du point de vue de l'éducation, comment ils vont se comporter. Et donc il y a l'idée que si c'est un enfant ou un adolescent qui se comporte de cette manière-là, c'est que c'est dans notre nature. La question, c'est de savoir si la nature humaine comme ça, prise à l'origine, est violente ou pas. Avec des adultes, déjà, ça les rend un peu plus responsables et ça permet de moins effectivement les considérer comme des victimes et que tout ce qu'ils vont faire, on se doute qu'ils sont censés quand même avoir une certaine certaine déjà éthique, voilà, et on arrive à voir les différents. Alors c'est là que moi ça m'intéressait aussi d'un point de vue philosophique. Ça me rappelle évidemment, enfin je dis évidemment pour moi, pour ceux qui connaissent l'expérience de Milgram par exemple, hein, où on demande à des gens qui a été refait en version jeu télé, d'ailleurs faux jeu télé pour France Télé, on demande à des gens d'envoyer des décharges électriques mortelles à quelqu'un, et dans la version jeu télé qui a été fait en France, 80% des gens adultes étaient prêts à obéir à des ordres criminels, voilà, y compris et surtout des gens qui a priori avaient des valeurs morales tout à fait, voilà. Alors l'idée c'est quand on se retrouve dans certaines conditions, qu'est-ce qu'on ferait à leur place. Effectivement, sur l'enfance, il y a quand même ce mélange dans cette série de l'enfance et de l'âge adulte, puisque c'est l'âge de l'innocence, ces couleurs acidulées, c'est ce qui dérange vraiment, mais je pense que ça les rend, étant adultes, ça les rend quand même plus responsables de ce qu'ils font, et voilà.
Ouais, ils sont plus responsables, mais je pense qu'il y a aussi ce côté où, dans les séries coréennes, de façon générale, dans la manière dont les Coréens vont raconter les histoires, je pense qu'il y a aussi... En fait, ils regardent la nature humaine de façon plus réaliste. C'est-à-dire que, on parlait de responsabilité, mais la réalité, c'est que notre sens éthique, il change toute notre vie et que on prétend avoir un sens éthique qui est plus évolué que celui des enfants, mais en vrai, est-ce que c'est vraiment le cas? Et je pense qu'il y a ce regard là-dessus qui dit, les adultes, c'est pas moins des enfants, en fait. Il y a une sorte de différence qu'on fait à un certain moment qui est nécessaire. Parce qu'effectivement, d'un point de vue biologique, à un moment donné, où on est plus fait, on commence à vieillir plutôt qu'à grandir, etc. Mais dans la manière de raconter les histoires en Corée, ils essaient vraiment toujours de raconter ça à toutes les étapes de la vie. Et notamment, il y a énormément de séries où on va montrer des personnes âgées qui ont des histoires, en fait, qui ont une vraie histoire narrative, un arc comme ça, intéressant dans la série. Et ça, moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on a très peu dans les séries occidentales.
On va c'est-à-dire que les personnes âgées ne disparaissent pas de la télévision, comme ça peut être le cas en France.
Tout à fait. Et c'est vraiment un sujet, quoi. C'est vraiment, c'est-à-dire qu'on les fait pas. Oui, ils ont aussi une vie. Ils ont aussi ils font aussi des erreurs. Ils ont une autre manière de voir les choses. Enfin, il y a vraiment ce rapport à tout ça qui va être assez différent.
Chez nous, les personnes âgées, quand je dis chez nous, c'est en Occident en général, les fameuses séries Soprano, etc. C'est toujours la grand-mère ou la vieille mère. C'est toujours plutôt pour parler de l'Œdipe, du héros, du rapport avec ses parents. Et c'est pas vraiment en tant que personnage autonome finalement que la personne âgée va être prise, quoi. Alors que là, effectivement, ils sont isolés de tout contexte familial. On ne sait pas tellement ce qu'ils sont à l'extérieur.
Ça, oui, s'ils ont des petits enfants ou non. En fait, ils existent en tant que par eux-mêmes.
Voilà, on sait même pas. Voilà, ça rappelle un peu Severance. Là aussi, c'est une série que j'aime beaucoup. On ne sait pas ce qu'ils sont à l'extérieur. En fait, il y en a plein, à part le héros et quelques copains. On ne sait pas quelle est leur vie, comment ils se sont retrouvés là, effectivement. Mais ils ont effectivement une autonomie. Après, nous, effectivement, alors je ne sais pas comment ça se passe en Corée ou en Asie en général. On associe un peu la vieillesse, alors soit la décrépitude, soit la sagesse quand même, voilà. Alors que dans effectivement Squid Game, c'est pas l'âge qui fait la sagesse forcément, voilà. et c'est ça qui est intéressant, effectivement, c'est là qu'on y a cette idée, c'est très juste, qu'en fait on grandit jamais vraiment, quoi. Et puis que c'est pas les plus vieux qui vont être les plus sages. Hein.
Ah non, dans Squid Game, non, c'est clairement, on n'est pas dans ce. Et puis. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que Squid Game est empreint de références cinématographiques, mais aussi picturales qui sont permanentes. C'est une série qui est très chiadée dans sa mise en scène et dans sa représentation.
Mais d'ailleurs, ça paraît, c'est comme le réalisateur, pour moi, c'est vraiment un sujet qui a été assez peu discuté, alors qu'en fait, concrètement, la raison pour laquelle la série est devenue virale aussi vite, c'est parce que c'est ce premier épisode, c'est ces images, les escaliers, ces escaliers de rose et vert, comme ça, qui sont basés sur les escaliers d'Escher, je sais pas si je dis ça correctement, mais du coup, pareil, on comprend pas très bien comment ils s'organisent, même eux, quand ils les ont fait...
Oui, on a l'impression, ce que je disais quand je vous ai envoyé la fiche avec les questions, c'est on a l'impression que c'est une sorte de Poudlard qui mène nulle part, ouais. Et en les voyant gravir ces marche, je pouvais pas m'empêcher de me dire, pensez à cette expression française, l'ascenseur social. Et ben voilà, tous ces gens, ils viennent de prendre l'escalier social, mais ils mènent nulle part en fait.
Bah c'est vraiment une pièce de transition. En fait, dans Squid Game, c'est ça, c'est assez intéressant. Il y a le dortoir où ils se réveillent et qui change tout au fur et à mesure du jeu avec de moins en moins de lits.
De lits, c'est horrible.
Qui s'en vont et qui d'ailleurs
et qui découvrent la fresque.
Qui découvrent la fresque où en fait on réalise que les jeux étaient indiqués là depuis tout le départ parce qu'ils se demandent tout le temps quels sont les prochains jeux et en fait ils étaient là dans cette pièce s'ils avaient regardé quoi. Et ensuite il y a cette pièce d'escalier qui est tout le temps la même et dans laquelle il passe et qu'on comprend jamais mieux au fur et à mesure et qui est vraiment ce passage en fait. Ça c'est vraiment c'est presque les limbes. C'est entre les deux. C'est là qu'on passe du dortoir au jeu. Et ensuite il y a les jeux qui eux vont changer plus ou moins à chaque fois, sauf dans la dernière épreuve, encore que c'est pas tout à fait le même lieu. Et ça d'un point de vue esthétique, ça rend ces escaliers hyper important, mais c'est surtout vraiment qui sont aussi, c'est les couleurs et les formes et tout ça, ça a vraiment resté. Et il y a tellement d'éléments du décor en fait dans Squid Game qui sont des spectacles, qui sont magnifiques. Les acteurs parlaient même du fait que quand ils y allaient, à chaque fois qu'ils les découvraient, ils étaient waouh.
Oui.
Enfin, c'est vraiment, même pour eux, c'était un spectacle.
Même le masque en polygone de celui qui organise tout ça, qui chapeaute. Et qui rappelle une fois de plus la construction d'un personnage de jeu vidéo.
En fait, le masque en lui-même, si ça rappelle ça, c'est aussi parce que l'esthétique du masque vient des jeux vidéo, c'est du low poly, qui est une esthétique où en fait, pour économiser les performances de l'ordinateur, on n'utilise que des triangles pour construire une image.
Pour ceux qui veulent se faire une idée, regardez des images du premier Virtua Fighter, jeu de combat de Sega fait en low polygone, et vous allez voir comment ils faisaient les visages. Et ça vous renverra.
Oui, sinon les premiers Tomb Raider aussi, quand on voit Lara Croft, le changement de voilà, mais c'est vrai que c'est ça qui rend très étrange le truc, c'est ce
ça me fait penser à
pour nous la seule série que ça me rappelle, c'est alors il y a Le Prisonnier peut-être effectivement, mais Chapeau Melon et Bottes de Cuir, comme ça avec des ambiances un peu étranges.
Mais Gilles, vous faites bien, parce qu'en fait non mais vous faites bien d'en parler, parce que ça m'a fait penser à une autre série aussi qui est un peu plus confidentielle, mais je trouve avec lequel il y a un parallèle à faire avec Squid Game, qui s'appelait L'Homme de Nulle Part. Une série, excellente série, mais qui n'a jamais eu l'honneur d'être rééditée et qui était aussi dans un monde très, très, où tout était préfabriqué, qui rappelait évidemment Le Prisonnier, mais qui avait cette même vibes de, même quand on est à l'extérieur, on est encore prisonnier d'autre chose, en fait.
En fait, d'ailleurs, un truc intéressant dans Squid Game, c'est à quel point aussi c'est l'utilisation des couleurs. Donc oui, elles sont très colorées, très pop, très. C'est des couleurs, notamment dans le cinéma, souvent quand on utilise le vert, qu'on utilise le rose, mais dans un film un peu d'horreur, ça a été fait. Mais il y a toujours une teinte au vert qui est pas franche. Parce que on veut que, en regardant la couleur, la couleur raconte aussi le malaise. Donc le vert est un peu malaisant. Il y a un truc, on sent que ça va pas, quoi. Que c'est pas la couleur. Ouais, c'est pas la bonne couleur. Dans Squid Game, c'est pas du tout le cas. Et c'est vraiment des couleurs K-pop, des couleurs digitales, numériques. Enfin, c'est vraiment des couleurs franches. Et l'horreur ne vient pas de cette couleur franche, justement, mais plutôt de l'utilisation qu'on en fait. Et en fait, ces couleurs deviennent terrifiantes. Mais parce qu'on apprend le symbolisme qui est derrière elle, en fait. Et ça, c'est
Mais le rose, notamment, le rose dans Squid Game devient une couleur terrifiante, là où habituellement, elle était quand même réservée à des choses plutôt gays, acidulées, sucrées.
Parce que dans Squid Game, c'est la couleur du contrôle. Et en fait, si on regarde au fur et à mesure, le vert est de plus en plus avalé par le rose, en fait. Littéralement. C'est-à-dire que c'est vraiment la couleur du contrôle, et ils voulaient vraiment faire ça parce qu'ils se sont dit, quelle est la couleur des contes de fées, la couleur que justement personne n'associerait à l'horreur, c'est le rose.
Ça, c'est bien de faire un petit décalage avec la couleur, parce qu'en général, les méchants, depuis L'Exorciste, notamment Palpatine dans Star Wars, ressemblent toujours aux méchants. C'est ceux qui se fait à l'intérieur, se voient à l'extérieur. Et puis, alors, il y a un personnage qui ressemble un peu à ça, c'est dans Harry Potter, là, la professeure des forces du mal. Comment elle s'appelle?
C'est pas la professeure c'est Trelawney, du coup.
Elle est la petite, là, qui a joué The Crown après, qui est habillée justement tout en rose chez elle.
De l'oreille sombre. Ombrage.
Dolores Ombrage. Oui.
Ah,
voilà.
Qu'est-ce que je raconte, Delaunay? Qu'est-ce que je raconte? Voilà. C'est celle de
Donc, son,
celle
oui, son intérieur, c'est une ambiance oui, de petite faïence, des petits chats.
Avec ses petits chats.
Voilà. Et en fait, elle est horrible. Et plus elle est rose, plus elle est horrible, quoi. Et voilà. C'est pas mal ce décalage entre l'être et le paraître. Et effectivement, ça me rappelle un peu. Le personnage est d'autant plus horrible qu'il est dans ce corps de rose, là, bonbonnière insupportable.
Ça sonne à nouveau.
Le téléphone sonne. Qui répond?
Qui décroche?
Qui veut répondre?
Je le prends. Je le prends, je le prends. Tu veux répondre?
Non.
Non, 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 pas ça.
Ne
non,
fais pas, touche pas.
J'y crois pas, c'est encore lui.
Oh my God. J'hallucine.
Allô?
J'en reviens pas qu'il y soit allé deux fois pour répondre.
Joueur 198,
c'est moi.
Puisque vous avez pris cet appel, sachez que vous risquez l'élimination.
Fais chier.
À moins de convaincre un autre joueur de prendre le combiné.
Alors ?
Si celui-ci accepte de prendre l'appel, c'est lui alors qui risquera l'élimination.
Vous venez d'entendre un extrait de la télé-réalité Squid Game, le défi, produite et diffusée sur la plateforme Netflix. Le principe est plus ou moins le même que dans la série. 456 joueurs participent à une compétition faite de jeux pour enfants et le survivant a ses épreuves en poche 4,56 millions de dollars. La seule différence étant que personne ne se fait exécuter durant ces épreuves, mais je crois bien qu'ils ont dû contempler l'idée à un moment donné puis se dire « Ah non, on n'a pas le droit ». Ça me fait ma transition parfaite pour parler de la manière dont Netflix a spéculé sur une série, Squid Game, qui dénonçait finalement tout ce que Netflix fait à côté. C'est-à-dire que il y a cette émission de télé-réalité. Je me souviens très bien d'avoir vu des youtubeurs en costume, très contents d'être en costume de Squid Game, faire la promotion de ce jeu. Je me souviens du menu Burger King. Je me souviens des polémiques dans les cours d'école, des enfants qui avaient tous vu Squid Game. Et encore maintenant, en préparant cette émission, j'ai vu et entendu des enfants de 7-8 ans qui connaissent parfaitement les musiques de comptines de Squid Game. Donc je ne sais pas qui sont les parents de ces enfants, quel est leur projet, mais on est quand même dans un hors-sujet total dans la manière dont on a parlé de Squid Game. Est-ce que cette série dit et montre ?
Alors, moi, ça m'a tout de suite, effectivement, parce que j'ai eu le même problème avec Stranger Things, parce que c'est exactement la même chose. On a du merchandising. Moi-même, je suis le premier à m'être acheté plein de t-shirts pour ressembler, voilà. Et ça m'a
Alors, vous ne ressemblerez jamais à Eleven. Sachez-le.
C'était
vraiment, spoiler, ça n'arrivera pas. Je ressemble plus à Eleven que vous, mais c'est parce que je suis chauve,
Je suis allé chez le barbier. Non, c'était Eddie Monson, moi, que je visais plutôt. Voilà. Mais voilà. Ça m'a rappelé tout de suite, effectivement, c'est pas faux. C'est ce qu'on appelle la pop culture. Il y a un très bon bouquin de Richard Memento sur pop culture qui montre comment la pop culture, quelles que soient ses qualités, moi, je suis à fond dedans. Enfin, c'est vraiment, c'est toute ma culture, justement, étant quand même une culture de la récup. Et on pourrait dire, moi, j'ai pensé aussi à Guy Debord, qui a écrit il y a bien longtemps, dans les années 60. Alors, tout le monde connaît son titre, La Société du spectacle. Mm-hmm. Peu de gens l'ont lu peut-être, parce que moi, quand je l'ai lu la première fois, j'ai rien compris. Hein. C'est imbitable. C'est hyper abstrait, mais il finit par dire à un moment que j'ai compris, hein, que le système, fameux système capitaliste, est tellement fort qu'il intègre sa propre critique, ce qui permet du coup de continuer à maintenir tout le monde sous son pouvoir. Alors lui, il pense par exemple aux faux matchs spectaculaires, aux fausses batailles spectaculaires, par exemple dans le sport, dans le foot, voilà. Mais effectivement, là, on a affaire à un système de société de consommation qui intègre à elle-même sa propre critique, ce qui permet aux gens d'acheter. Enfin, c'est horrible quand on y pense. C'est-à-dire, on est en train de dénoncer un capital, une société de consommation, et puis toi, tu vas aller jeter tranquillement ton t-shirt en consommant. Voilà. Bon, après, il y aurait des critiques à faire, mais effectivement, faut toujours se.
Ça rejoint, ça rejoint ce que vous disiez sur la logique dramaturgique de Squid Game. C'est est-ce qu'on est vraiment libre? Voilà. Donc, est-ce qu'une dénonciation est vraiment une dénonciation?
Voilà.
Ophélie?
Non, bah, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur le fait que c'est assez macabre quand même de profiter effectivement de cet univers. Enfin, quand on voit par exemple à Halloween, les déguisements Squid Game se vendent énormément. En Corée, il y a tellement de... On appelle ça des self-photo studios, c'est un endroit où on va et on prend des photos de soi avec ses amis, etc. Et on peut souvent mettre des cadres un peu mignons, des machins comme ça. Bon, Squid Game.
Y a même des... Après, moi, je serais quand même pas aussi dur, parce que comme je vous dis, pop culture, je pense que c'est aussi un moyen, ces œuvres de pop culture, aussi de faire réfléchir, mine de rien, moi je l'utilise pour mes élèves, si j'arrive et que je leur dis on va faire aujourd'hui l'impératif catégorique de Kant, ça va pas trop passer, si je leur dis on va regarder un extrait d'une série, là ils sont contents, et puis c'est quand même des images qui permettent à tout le monde de réfléchir, c'est quand même des images qui permettent de se poser des questions, alors effectivement après on va s'identifier parce qu'il y a de l'affectif là-dedans, c'est aussi ce qui nous fait bien réfléchir, c'est de s'identifier à des personnages, c'est de s'attacher à eux, moi je veux le t-shirt de Eddie Manson parce que je m'attache à lui, ça m'empêche pas de me poser certaines questions quand je vois ce qui se passe. Donc c'est ambivalent quand même, faut pas non plus...
Ophélie, pour terminer
En fait, ça c'est vrai que par rapport à la série, oui, mais par rapport à tout ce qui a été fait autour, donc que ce soit la télé-réalité de Netflix ou alors la vidéo de MrBeast, pareil, une sorte de télé-réalité Netflix, là par contre on est plus à se poser la question, bon, est-ce que ces projets avaient vraiment raison d'être?
Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci Ophélie Surcouf, merci Gilles Verwisch. C'est la fin de cette émission consacrée à Squid Game, qui vous l'aura fait réaliser s'il en était besoin, que c'est une série de qualité qui mérite d'être analysée autrement que par le phénomène qu'elle a été. Et j'aimerais remercier également Charles de Silia qui réalise cette émission, une émission préparée par Lisiane Larbani, et à la technique aujourd'hui, Adèle Caglar. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou parler avec moi directement sur Instagram.
Bonjour, monsieur. Vous me semblez avoir des difficultés et vivez une vie sans avenir. Heureusement pour vous, je suis là pour vous faire un cadeau aujourd'hui.
Un cadeau? C'est quoi ce cadeau?
Vous ne pouvez en prendre qu'un. Ce sera le pain ou le jeu à gratter.